Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage. Et la conversation, où je vous propose de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma conversation avec Émilie Besson. Émilie est la créatrice et la dirigeante de La Fabrique du Nom. Elle accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à choisir le nom de leur marque. Alors j'ai rencontré Émilie il y a quelques années, au moment où l'une et l'autre, nous nous lancions dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Notre rencontre a révélé et fait résonner de nombreuses similitudes à la fois dans nos trajectoires universitaires et professionnelles, variées et interculturelles, et également dans notre vision de l'entrepreneuriat comme cet espace qui permet une expression plus large, plus complète de notre créativité et de notre singularité. Après 15 ans d'une solide expérience de salarié, Émilie a eu envie de laisser s'exprimer une plus grande part de sa créativité dans son quotidien professionnel et elle a eu l'audace de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Elle a cherché un moment quelle forme pouvait prendre concrètement cette envie d'entrepreneuriat. Alors, j'ai eu envie de mettre un coup de projecteur sur l'histoire du choix de l'entrepreneuriat à travers le parcours singulier d'Émilie, ainsi que sur les tenants et les aboutissants du choix du nom d'une marque au moment où l'on choisit de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au cours de notre conversation, Émilie et moi parlons entre autres de la complémentarité des expériences qui composent et construisent nos parcours singuliers, d'aventures entrepreneuriales, de créativité et de rigueur, de l'importance de se connaître et d'identifier ses talents, ses forces et sa singularité, de projets entrepreneuriaux, de processus de création d'un nom de marque et du choix du nom juste, ou encore d'audace, de l'importance des rencontres, de coups de foudre, de pique-nique et de déclic. Alors, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie.
Bonjour Oriane.
Bienvenue dans Avez-vous choisi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une conversation sur le thème du choix. On va avoir plein de choses à se raconter parce que tu as un parcours et tu as une activité aujourd'hui qui permet d'illustrer assez joyeusement le thème du choix. Donc, tu es entrepreneur, tu es la créatrice et la dirigeante de La Fabrique du Nom que tu as créée en mai 2019. Donc, avant de parler de ton activité, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Alors déjà, merci Oriane pour cette invitation, pour cet échange. Alors, moi, je suis Émilie Besson, donc je travaille pour La Fabrique du Nom, effectivement. Alors, me présenter, c'est un exercice qui est assez original parce que c'est ce que je demande tout le temps aux autres entrepreneurs. Donc, à moi de jouer le jeu. Alors, je vis sur Angers, dans le cœur historique d'Angers. Je précise ça parce que je trouve ça intéressant de le savoir pourquoi c'est important pour moi et pour les personnes que je suis en entrepreneuriat. Le cœur historique d'Angers, il y a toute une histoire, en fait, entre la cathédrale et le château. Donc, on est entouré de pavés, de vieux murs hein, et donc de vieilles histoires. Parce que je m'intéresse énormément à tout ce qui concerne le parcours, l'histoire de vie de chaque entrepreneur. En fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je précise que je suis dans l'Angers historique.
Ce que j'ai noté dans ton parcours, c'est que tu n'as pas un parcours linéaire, tu as un parcours pluridisciplinaire, tu as
un certain nombre d'expériences variées que tu as vécues au fil de tes années. Comment tu peux le résumer en quelques mots, justement, ce parcours? Comment tu le qualifies dans sa singularité, toi?
Alors, je dirais que c'est un parcours complémentaire parce que, effectivement, j'ai eu deux métiers différents que j'ai exercés en parallèle, deux formations que j'ai faites différentes mais qui se complètent aussi, deux métiers qui se complètent dans différents lieux. C'est-à-dire que je travaillais sur une bonne partie sur Tours et sur Nantes, donc des lieux qui se complétaient également. Et dans des pays différents aussi, avec une culture différente et des cultures qui ont été complémentaires et qui m'ont aidée aujourd'hui vraiment, qui m'aident toujours à pouvoir travailler sur ce qu'on appelle la stratégie identitaire. Et le fait de pouvoir travailler dans des pays étrangers, ça permet de voir qu'est-ce qui existe d'autre tout simplement au niveau du positionnement dans un parcours professionnel ou personnel ou quotidien, peu importe, de voir qu'il existe d'autres façons de se mouvoir et de vivre et de se poser, d'avoir une posture professionnelle, tout simplement. Donc, je parlerai, pour résumer, la complémentarité des expériences. Parce qu'on dit beaucoup atypisme, parcours différent. Eh bien, en fait, le fait de dire ça, on stigmatise, en fait. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas justement de stigmatiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement de faire de cette différence. On est tous différents, il ne faut pas croire. Il faut creuser un petit peu pour voir quelle est la différence en chacun, mais on est tous différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, dans cette différence, on va accentuer nos talents, nos forces. C'est ça qui est intéressant. Donc, finalement, toutes ces expériences, que ce soit les miennes, les tiennes, des entrepreneurs qu'on accompagne, c'est justement la complémentarité. On ne part jamais de zéro. On se complète au fur et à mesure de nos avancées dans la vie. Bon, j'étais un petit peu longue pour le résumer.
Non, mais ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est ce concept de l'expansion. C'est-à-dire que chaque expérience vient s'engrammer, vient sédimenter, se sédimenter dans la personne que nous
complètement
sommes. Et on vient s'enrichir d'expériences, y compris quand il y a des expériences qui, a priori, sur le papier ou dans notre ressenti, ont été des ratés ou des échecs. Tout ça, ce n'est pas juste quelque chose dont on fait table rase une fois qu'on a passé le cap, mais plutôt qui vont nourrir la personne que nous sommes. Et effectivement, sur cette question du parcours d'un mouvement d'expansion, de tout ce qu'on vit et comment est-ce que tout ça, ça vient nourrir la personne que nous sommes et notre singularité finalement. Dans ton parcours, je pressens qu'il y a un ingrédient qui a été et qui est encore aujourd'hui essentiel, c'est l'ingrédient des rencontres. Et notamment, alors j'ai beaucoup ri en découvrant ça dans un des éléments que j'ai vu de toi et que j'ai entendu de toi sur une interview que j'ai écoutée. Il y a un temps fort dans le lancement de ton aventure entrepreneuriale que j'ai envie d'appeler le pique-nique du déclic. Est-ce que tu peux nous en parler et de nous dire en quoi cette rencontre-là, parmi toutes les belles rencontres que tu as faites, a été un déclencheur, en tout cas une amorce ou une réamorce de ton projet d'entrepreneuriat?
Alors, c'est vrai que le pique-nique est un temps fort de rencontres, effectivement. Et les rencontres se font toujours, quels que soient les pays, se font toujours autour d'un repas. Mais là, c'est un repas improvisé, finalement, un pique-nique. C'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et dans l'entrepreneuriat, moi, le pique-nique a été vraiment un moment déclencheur parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Exactement, parce que dans l'entrepreneuriat, on est tout le temps dans son business plan, on est dans le projet de son entreprise 24 heures sur 24. Quand je dis 24 heures sur 24, tu le sais comme moi, au début, c'est ça, on pense qu'à ça, on mange ça, on respire ça. Donc, c'est vraiment ça. Et il y a un moment, où j'en ai eu, enfin, je ne dirais pas que j'en ai eu assez, mais j'avais besoin de prendre l'air, en fait. Hein, parce qu'à force de réfléchir au projet, on se trouve un petit peu omnibulé, obsédé, et puis finalement, on est en saturation mentale. Hein, d'accord ? Et effectivement, dans mon quartier, il y avait l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, il y avait un pique-nique, on appelle ça le pique-nique des voisins, je crois. En France, on appelle ça le pique-nique des voisins. Et comme on était tous un petit peu… Enfin, on ne se connaissait pas, parce qu'en centre-ville, on ne se connaît pas forcément parce qu'on a chacun ses activités. Le matin, on rentre, puis voilà, on se croise. Et il y a eu un pique-nique et je me suis dit, allez, on y va. On ne connaît personne, il y a plein de nouveaux, on y va, on va au pique-nique. Et ça s'est passé comme ça, aussi naturellement, ça a été un déclencheur, effectivement, parce que j'ai rencontré une personne, parce que dans mon entourage, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'entrepreneur. L'entourage proche, je parle pas des générations précédentes. Dans mon entourage proche, les amis, les collègues, forcément les anciens collègues, pas d'entrepreneurs. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu, on va dire, un peu un ovni, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu la personne curieuse. Et là, du coup, j'ai rencontré dans ce pique-nique entrepreneur une autre femme qui était dans mes âges aussi, dans un grand tournant pareil de la vie, envie de changer d'atmosphère, de changer, prendre sa vie en main aussi. Et puis, bah, d'oser se risquer à quelque chose qui lui plaisait. Et donc, forcément, c'était la seule personne qui était dans l'entrepreneuriat comme moi. Et donc, ça a été… on a discuté avec passion parce que c'était des choses qui nous traversaient vraiment, quoi. Et ça a été déclencheur surtout parce qu'en fait, comme je suis passionnée par l'entrepreneuriat de manière générale, j'allais souvent à des salons pour discuter avec des autres entrepreneurs. C'est l'ambiance de l'entrepreneuriat que moi j'aimais. Mais je ne savais pas le mettre le doigt dessus en fait encore. Je savais que j'aimais l'ambiance, mais je ne savais pas pourquoi. Alors je me disais, c'est parce que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, donc c'est pour ça que j'aime l'ambiance de l'entrepreneuriat. Et en fait, on comprendra plus tard après. Et donc, du coup, cette personne-là, je ne peux pas dire son nom encore, hein, ce n'est pas possible parce qu'elle est dans un projet aussi. Donc, mais voilà, cette personne-là, qui est une très bonne copine, m'a expliqué qu'elle avait son projet. Elle était suivie à l'époque par la DGE et tout était ficelé. Tout était, j'aime bien dire ce mot-là, ficelé, comme le gigot, tu sais, où tout est bien étudié soigneusement. Et normalement, elle était prête à se lancer. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle ne s'était pas lancée. Elle avait l'idée, elle avait… l'expérience, les compétences, tout était prêt. Mais elle était toujours pas, c'était toujours pas jeté à l'eau. Et alors, comme moi, dans mon ancien métier, c'était justement d'accompagner les ingénieurs et les chercheurs dans valoriser leurs projets et puis surtout à pouvoir l'exprimer, le verbaliser et communiquer dessus. Donc, je lui ai proposé de l'aider tout simplement. Parce que je trouvais son projet super chouette et je ne comprenais pas pourquoi elle n'allait pas plus loin. J'ai dit, écoute, si tu veux, je t'aide. On se retrouve tous les lundis matin et on va réfléchir sur ton projet. On va voir où est-ce que tu en es, pourquoi tu ne t'avances pas plus que ça. Donc, j'ai appris toutes les méthodes comme moi, je travaillais dans mon expérience salariée, tout simplement, naturellement, parce que je savais le faire puis ça me plaisait bien. Donc, il n'y avait pas de souci. Je n'ai pas fait d'effort hein, plus que ça. Donc, c'est là où j'appuie sur le fait qu'il faut vraiment aller vers ses forces. Hein. Et pas chercher de midi à 14h en fait. Et puis on a fini ce travail-là, au bout de 6 séances, 6 matinées. Et c'est là où cette personne-là m'a dit: mais pourquoi tu ne fais pas ce métier-là? Tu le fais super bien, tu es à l'aise, c'est naturel. Mais il y a vraiment un besoin. Et dis-moi, aujourd'hui, ça y est, je suis prête à me lancer. Et c'est vrai, je lui ai dit: mais oui, mais c'est quelque chose que je sais faire. Mais comme je ne connaissais pas l'entrepreneuriat, enfin le monde des entrepreneurs purement, je ne visualisais pas. Mais le fait d'avoir eu cette expérience-là, d'avoir pu l'aider concrètement et lui avoir trouvé un nom pour son projet, elle a pu vraiment… Ça a été du concret, ça a été un déclencheur pour elle. Là-bas, c'était pour elle quand même. Mais ça a été un déclencheur pour moi parce qu'en voulant l'aider, en l'aidant simplement naturellement, je me suis rendu compte que en fait, je n'avais pas besoin d'aller chercher loin. J'avais les réponses en moi en fait. Mais les réponses, elles sont en soi. À partir du moment où on accepte de rencontrer des personnes. C'est ça, en fait. Le pique-nique de la rencontre, c'est ça. C'est se dire, je vais à l'inconnu. Enfin, pas tant que ça, finalement. Mais j'ose aller voir d'autres personnes, me changer les idées. Et puis, finalement, accepter la rencontre. Parce que la rencontre, c'est dans la rencontre, justement, qu'on nous renvoie l'image de nous-mêmes. Ce n'est pas face à son miroir ou à son papier ou son ordinateur qu'on a l'image de soi-même, en fait. Et c'est ça que je trouve que le pique-nique est déclencheur. Enfin, la rencontre est déclencheur. Est un grand déclencheur dans la vie de tous les gens, de manière générale, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le personnel. On est vraiment à la rencontre de plein de choses. On découvre des choses. C'est pour ça que ça a été déclencheur pour moi. Et que je m'en souviens parce que c'est vraiment un moment important, effectivement.
Oui, et j'entends que ça a été aussi un moment qui t'a permis de prendre la mesure du fait que l'entrepreneuriat n'était pas une étape totalement déconnectée de ton histoire précédente et de tes expériences précédentes. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, que finalement, c'était l'incarnation même du fait qu'on ne vit pas une vie en silo, mais qu'on apporte avec nous le point, le fil rouge entre toutes nos activités et éventuellement tous les statuts qu'on peut avoir au fil de notre vie. Il y a un point commun qui est quand même d'importance, qui est nous-mêmes, c'est-à-dire la personne elle-même. Donc, on ne se coupe pas entièrement de tout ce qu'on a construit, appris, vécu avant. Mais finalement, parfois, c'est pourquoi vouloir chercher à réinventer la roue alors que j'ai déjà beaucoup de choses en moi. Par contre, il y a probablement un travail, comme tu le disais, d'aller faire cet effort, d'avoir cette curiosité, d'aller à sa propre rencontre, alors à travers la rencontre avec l'autre, mais aussi de se dire qu'en conscience, on va faire le choix d'aller à sa propre rencontre, d'aller se connaître un peu davantage et de connaître la personne qu'on est aujourd'hui et non pas la personne qu'on était il y a 10 ans, 20 ans. Notamment, je rebondis là-dessus par rapport à ton parcours. Tu as eu un parcours où en formation initiale, tu as fait des études de psychologie, c'est ça ?
Alors, ma première formation, et j'ai un diplôme de psychologue. Et puis après, quand je suis revenue de l'étranger, j'ai refait des études à l'âge adulte. Donc, du coup, j'ai refait des études dans tout ce qu'on appelle les sciences de l'éducation. Donc, c'est le carrefour de toutes les sciences, en fait, de toutes les disciplines. Donc, il y a de la philosophie, il y a de la sociologie, il y a de la sémiotique, il y a les sciences du langage. Enfin, il y a plein de disciplines, en fait. Et il y a les sciences de l'ingénierie. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, j'ai fait un doctorat, en fait, dans le cadre de ces études-là, en doctorat en sciences de l'éducation, qui m'a permis, en fait, tout simplement de... À l'époque, on m'avait recrutée pour faire une recherche sur les stratégies identitaires qu'on mettait en place, mais surtout parce que je venais de l'étranger, d'Angleterre et j'avais travaillé en fait sur l'accompagnement en ligne. Allez, là-bas, c'était quelque chose de normal parce qu'ils étaient déjà, enfin, c'était leur univers normal, hein, l'Internet était complètement ancré, alors que chez nous, ça commençait tout juste à arriver. Et puis, alors, l'accompagnement en ligne, ça n'existait pas à l'époque. Donc, j'ai travaillé sur la stratégie identitaire à accompagner donc, des ingénieurs et des chercheurs sur leur lieu d'exercice professionnel et puis pour qu'ils puissent surtout parler de leur recherche de manière décomplexée en accord avec en accord avec leurs valeurs et leur alignement surtout, parce qu'on a toujours fait en sorte que les personnes qui venaient d'un milieu scientifique parle que d'un vocabulaire scientifique et technique. Et moi, venant d'une formation sciences humaines, quand même pure et dure, le but, c'était d'amener cette pensée-là, pas catégorique et dichotomique, d'amener cette pensée que l'individu n'est pas séparé de son milieu professionnel. La vie personnelle épouse la vie professionnelle, justement, elle ne prend pas le dessus, elle l'épouse, ingénieusement d'ailleurs, mais c'était ça, c'est de pouvoir être aligné et pouvoir parler de sa recherche, de ses travaux de manière vraiment intuitive et alignée, en fait, c'était ça. Effectivement, donc j'ai un parcours en sciences humaines, donc en psychologie d'abord, mais ces deux formations sont très complémentaires finalement parce que ça permet de comprendre pourquoi on s'engage dans un processus de formation, dans un processus dans une mission professionnelle, par exemple. Ça permet de comprendre aussi pourquoi d'un pays à un autre, on n'a pas les mêmes manières, on n'a pas les mêmes postures professionnelles. Et puis, ça permet tout simplement de comprendre toutes les étapes de vie au travail, parce qu'il y en a plusieurs dans sa vie.
Et dans ton parcours, donc, on perçoit hein, à la fois la densité de ton parcours, la richesse de ton parcours. Il y a cette dimension interculturelle qui est venue nourrir la dimension universitaire hein, de ton parcours, donc avec des missions qui devaient être... passionnante d'accompagner des personnes à vulgariser finalement leurs propos, à rendre leur expertise audible par un nombre d'auditeurs plus large. Et en même temps, tu as eu cette envie d'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a rendu possible pour toi ? Qu'est-ce que ça a élargi ? Qu'est-ce que ça a agrandi pour toi ?
Alors, je répondrai pas directement à la question, tu m'excuseras, Oriane. C'est que moi, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui me manquait dans mon parcours d'avant, d'abord. C'est ça qui m'a permis de réfléchir à ce que je pouvais faire ensuite. Ce que j'aimais, ce que je faisais avant, j'aimais bien, j'aimais beaucoup. J'étais passionnée parce que je travaillais sur l'histoire de vie, les parcours et les histoires de vie des personnes en milieu professionnel. Donc, j'adorais. Mais il y a une chose qui me manquait, c'est que je ne pouvais pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on arrive à un certain bout de chemin, on arrive à faire de l'administratif. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. Si je voulais aller plus haut dans un poste ou un secteur professionnel, on me proposait de l'administratif. Donc, ça ne me convenait pas, tout simplement. Et ce qui ne me convenait pas non plus, c'est qu'il y a un moment, j'avais besoin de nouveauté. Mais à chercher tout le temps la nouveauté, on n'est pas satisfait. Ça veut dire qu'on n'a encore pas trouvé ce que l'on voulait. Et moi, ce que j'ai compris de mon parcours, ce qui me manquait, c'était le côté créatif. Je n'avais pas ce côté créatif. J'avais le côté très opérationnel, efficace, puis le côté aussi très intuitif, à chercher la singularité dans les parcours, à accompagner les gens, à les motiver. C'était super, j'adorais ce que je faisais. Mais il y a ce côté créatif que je n'avais pas. Et pour moi, à l'époque, le côté créatif, on était créatif. C'est malheureux à dire, mais pour moi, c'était mes stéréotypes, hein, parce qu'on en a tous. Hein. C'était le côté créatif. Bon, je l'avais dans la recherche. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, pour moi, je me disais, le côté créatif, c'est quelque chose de manuel, c'est quelque chose d'artistique. Mais le côté artistique, c'était forcément manuel pour moi. Donc, j'ai mis du temps à comprendre que non, ça ne me plaisait pas tout ce qui était manuel. J'aime bien au quotidien, mais je ne voulais pas en faire mon métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le côté artistique, on pouvait l'avoir dans les mots, dans les noms, dans le verbal en fait. Donc, c'est ça que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est que je retrouve tout ce que j'étais avant, mais il y a ce côté qui m'épanouit le plus de tout au monde en fait. C'est la créativité, c'est la possibilité de finalement de pouvoir répondre, de pouvoir interpréter les mots et le projet de quelqu'un. Pas de manière simplement efficace, et, parce que ça, évidemment, il faut que ce soit efficace et pragmatique pour la personne qui est dans le monde du travail. Mais ce qui est surtout intéressant pour moi, ce qui m'épanouit moi, c'est le côté de trouver quelque chose, de pouvoir traduire dans des mots que la personne n'aurait pas pensé. Donc, c'est vraiment ça. Traduire, ça veut dire finalement reprendre l'univers de la personne ou l'univers de quelque chose et pouvoir l'ajuster avec tes propres mots, ton propre ressenti et puis... ton intuition, ta stratégie, ce que tu vois dans les années à venir. Parce que c'est ça la créativité. C'est en fait, c'est entre la discipline et puis ce côté qui part dans tous les sens en arborescence. C'est pas que les brainstorming et voilà. C'est vraiment essayer de utiliser ces triggers dans cette créativité. Et c'est ça que j'aime dans mon métier et que j'ai pu mettre en place. C'est cette créativité avec la discipline. Parce que pour moi, je ne peux pas vivre sans l'un sans l'autre en fait. Voilà.
Oui, c'est ça. Donc moi, ce que j'entends, c'est que l'entrepreneuriat, et c'est souvent ça qui fait que. À un moment de nos vies, surtout autour de l'âge qu'on a, nous, il y a cette envie, autour, entre 35, on va dire, et 45 ans, de se dire, j'ai vécu beaucoup de choses. Comme nous, on a la chance d'avoir vécu des métiers qui nous ont passionnés, qui nous ont nourris. Et en même temps, il y a cette idée qu'on commence à être un petit peu à l'étroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au sens, pas de manière, pas pour dans l'intention de se vanter de quoi que ce soit, mais en tout cas de se dire... Pour m'exprimer dans mon entièreté, dans ma singularité, voilà. Besoin d'associer tous les éléments qui font que je m'épanouis. Et effectivement, pour rebondir sur ton point autour de la créativité, ce qui est intéressant sur les personnes, notamment des profils comme ceux que j'accompagne, le profil plutôt de dirigeants, de cadres dirigeants, d'entrepreneurs, qui sont généralement des personnes qui ont la tête extrêmement bien faite, qui sont très efficaces, qui organisent, qui sont des piliers dans leur communauté à plus d'un titre, que ce soit personnel, professionnel, il y a quelque chose qui me manque au bout d'un moment. C'est-à-dire que je n'arrive pas à être créatif en dehors de le soir quand je vais faire mon cours de peinture, le week-end quand je peux aller faire une activité qui me nourrit autrement et d'un élément que je ne retrouve pas aujourd'hui dans mon métier tel que je peux l'exercer, dans l'environnement qui est le mien aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, dans ce que j'entends de ton parcours, l'entrepreneuriat a élargi ça, c'est-à-dire a créé de la place plus largement pour t'accueillir dans ton entièreté et dans ta singularité avec ce savant mélange d'efficacité et de créativité, justement.
Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Tu l'as bien résumé. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve tous à ces courants de la vie, à ce grand tournant de la vie où effectivement, on se trouve... il nous manque quelque chose. Et c'est ce manque qu'il faut qu'on aille creuser, en fait.
Et quand tu as créé donc la fabrique du nom, on l'a vu, il y a eu tout ce parcours, tu avais fait ce test un peu en direct qui, voilà, sans savoir le nommer à ce moment-là, mais c'est devenu finalement ta version bêta de ton accompagnement ensuite. Toi, aujourd'hui, tu interviens à quel moment dans le choix du nom d'une marque ? Parce que j'imagine bien que ce sont pour les créateurs d'entreprises principalement, mais est-ce qu'il y a des temps sur lesquels c'est à la fois plus pertinent que tu sois mobilisé et où on fait appel à toi à un moment donné particulier.
Alors, je vais répondre de manière pratico-pratique. Les porteurs de projets, futurs entrepreneurs font appel à moi, en fait, quand ils ont connaissance que ça peut exister d'avoir une aide sur la création de noms, hein, parce que souvent, quand on est un entrepreneur, on imagine que la création de noms de marque, c'est que pour les grandes entreprises du 440. C'est pas vrai. Il y en a vraiment pour toutes les sortes d'entreprises. Alors, les entreprises, dans l'idéal, c'est qu'en fait, une entreprise se travaille et réfléchit sur son nom de marque, parce qu'on travaille sur son identité, tout au début du projet. C'est-à-dire, même si le business plan n'est pas fait, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ça aide justement à se positionner, ça aide à savoir quels sont les différents points que l'on va aborder, ça aide à se projeter dans les 2, 5, 10, 20 ans aussi. Donc, je dirais dans l'idéal, c'est mieux de le faire au début parce que démarrer une activité avec un nom qui ne tient pas la route, alors quand je dis qui ne tient pas la route, ce n'est pas qu'il n'est pas joli ou qu'il n'est pas ceci. un nom qui ne tient pas la route, entre guillemets, pour moi, dans un langage familier, je dirais que c'est un nom qui n'est pas efficace par rapport à sa disponibilité. Alors, je rentre dans des points techniques, hein, mais je vais aller très vite là-dessus. Qui est pas efficace sur sa, qui n'est pas efficace parce qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas efficace parce que la clientèle ne le comprend pas ou les partenaires professionnels ne le comprennent pas. Ou il n'est pas efficace parce que tout simplement, il ne représente pas du tout le produit que l'on veut mettre en avant ou il ne représente pas notre propre histoire. D'accord ? Donc, on peut effectivement démarrer une entreprise parce que bon voilà, on a l'idée, on a envie que ça aille vite. Mais le souci, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi à l'identité sur laquelle on voulait présenter. Et cette identité-là découle tout derrière les missions, découle la vision, les ambitions, tout. Donc, ça veut dire qu'on part sur des faux semblants et on part un petit peu à l'aveugle. Donc, c'est un petit peu dommage. On peut toujours rectifier. Il n'y a jamais de catastrophe. On peut toujours rectifier. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut voir d'un point de vue pratique aussi, c'est que ça coûte cher après de refaire son identité.
Donc, Émilie, là, tu évoques effectivement les personnes qui sont en phase de création d'entreprise. Et puis, on sait aussi qu'il y a des caps qui sont franchis dans l'histoire et dans le parcours d'une marque. Est-ce que c'est aussi des moments sur lesquels tu interviens et où c'est judicieux justement de repenser son identité de marque ?
Alors, effectivement, j'interviens aussi quand les entreprises ont déjà quelques années d'expérience, voire beaucoup d'années d'expérience, hein, d'activité. Alors, celles qui ont que 2-3 ans d'activité et qui souhaitent refaire leur nom de marque, souvent c'est parce que le nom n'est pas adapté à leur activité et qu'elles peinent à augmenter leur chiffre d'affaires, en fait. C'est souvent pour ça. Donc, c'est judicieux, oui. Faut pas attendre plus longtemps. Ça veut dire que c'est pas adapté, que ça n'a pas été bien pensé de manière stratégique, d'accord ? Après, il y a des entreprises qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont compris que leur cible clientèle, leur population a évolué. Une population en 5 ans, en 10 ans, ou même ne serait-ce qu'en un an. On prend l'exemple de la pandémie. Les clientèles qu'on a eues au mois de janvier ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. Elles ont psychologiquement changer d'état d'âme. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, une entreprise qui a plusieurs années d'expérience et qui a un produit qui a évolué aussi, mais sa clientèle a évolué. Donc forcément, le nom qui a été choisi parfois un petit peu à la va-vite au début, en équipe interne, et puis se retrouve aujourd'hui confronté à une problématique d'un nom qui ne résonne pas du tout, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'histoire pour les nouveaux marchés. Donc là, effectivement, c'est un moment judicieux de se poser et de « c'est jamais trop tard » et de se dire « bon, ben, on y va, on se pose, on prend le temps de réfléchir à un nom et de se faire accompagner, effectivement. »
Alors, justement, quand tu dis que là, on parle du choix d'un nom de marque, donc on voit tout l'enjeu derrière, à la fois en termes d'efficacité, de visibilité, d'appropriation aussi. C'est-à-dire que c'est important que le créateur d'entreprise se sente connecté à ce nom-là. Il y a à la fois le rapport du créateur à sa propre marque, mais il y a aussi comment est-ce que cette marque-là va aller à la rencontre de l'extérieur et idéalement de la cible et des prospects, des clients de demain de cette entreprise. Mais du coup, ça cristallise aussi beaucoup de peur, il y a beaucoup d'enjeux finalement derrière le choix d'un nom. Alors moi, je fais le parallèle avec quand on fait le choix du nom de son enfant à naître, par exemple. Moi, je sais que quand j'allais devenir maman, j'ai ressenti à quel point il y avait un choix engageant et responsabilisant dans le choix d'un prénom. Et donc, je fais vraiment le parallèle avec le choix d'un nom quand on crée une entreprise, parce que quelque part, c'est un autre bébé qu'on est en train de faire naître. Et donc, tout ça, ça cristallise beaucoup de peur, voire jusqu'à la paralysie. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que ça va plaire aux autres ? Comment les autres vont l'accueillir finalement ? Et donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, comment faire le choix le plus juste dans le choix d'un nom de marque ? C'est quoi les critères à prendre en compte pour s'assurer qu'on va faire non pas le bon choix, mais un choix juste pour soi et pour son activité ?
Alors, le choix juste, il est toujours, toujours, je répète bien, aligné à la personne qui l'a choisi et non pas à son entourage. Aligné à la personne qui l'a choisi, c'est-à-dire en fonction de sa personnalité, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses points forts, de son histoire. D'accord ? La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans un choix, il n'y a pas que son univers personnel qui doit être retenu dans ce choix. C'est qu'il doit y avoir aussi, en fait, ce qu'on appelle la population cible qui entre en compte dans nos missions, dans nos produits ou dans nos services. On ne choisit pas un nom que pour soi, on choisit un nom pour les personnes auxquelles on s'adresse. D'accord ? Donc, bon, derrière ce nom, on va délivrer un message. C'est important, une promesse de solution. Là, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est important de le prendre en compte. Et dans ce choix, il y a aussi d'autres paramètres, là, qui sont un peu plus, je vais dire, administratifs et moins créatifs pour les entrepreneurs, différemment du bébé qu'on va choisir, du nom qu'on va choisir pour son bébé. C'est que là, en fait, il faut qu'on tienne compte en fait, de la stratégie administrative. Ça veut dire qu'il faut que ce nom il soit disponible sur les noms de domaine, disponible en tant que nom de société et disponible en tant que nom de marque. Donc, il y a des vérifications à faire. Et les vérifications, elles ne sont pas qu'au niveau du nom à l'identique, mais aussi des noms qui peuvent se rapprocher de l'univers, qui peuvent se rapprocher au niveau de la phonétique, qui peuvent se rapprocher au niveau de l'orthographe. Donc, même si on rajoute un S à un nom et puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le même nom, mais au singulier, ça ne marchera pas non plus. Il n'est pas disponible. C'est comme si finalement, dans ce choix, on vous disait, est-ce que je veux avoir un nom qui est unique, qui m'appartient et qui va être compris par les autres, ou est-ce que je fais la provocation, hein, c'est volontaire, ou est-ce que finalement, j'accepte d'usurper l'identité de quelqu'un? Le choix, il est à ce niveau-là, en fait. Est-ce que j'accepte d'être moi et de me mettre en valeur et de répondre à quelqu'un? Ou est-ce que finalement, je me cache et j'essaie de prendre l'identité de quelqu'un d'autre? C'est aussi simple que ça, le choix. Si on devait retenir qu'un élément dans ce choix-là, d'accord, pour résumer.
Et alors, j'imagine qu'il y a toute une phase de, justement, tu l'évoquais tout à l'heure, de brainstorm, où tu vas aller travailler avec les personnes que tu accompagnes sur la singularité de la personne, la singularité du parcours, la singularité de l'activité, du produit, de l'offre, etc. Et donc, une fois qu'on a posé tout ça, à quel moment arrive cette conviction que ça y est, on a trouvé le bon? À quel moment choisir de se dire là, ça y est, on s'en tient là, on le tient, le nom?
Alors, dans les clientes et les clients que j'ai vus, soit parfois c'était un coup de cœur parce que tous les éléments s'emboîtaient bien. Le choix du nom, on se dit ça y est, on le tient, c'est le bon, parce qu'en fait tous les éléments s'emboîtent, tous les éléments sont harmonieux, c'est-à-dire la sensibilité de la personne, l'univers de la clientèle, et puis bien sûr le côté pragmatique. Mais surtout quand l'univers de la clientèle et l'univers de la personne qui entreprend le projet, c'est vraiment compatible, c'est comme un coup de foudre en fait. C'est qu'il y a des émotions qui sont envahissantes des deux côtés et qui vont vraiment bien ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paradoxe, tout est bien lisse, tout est évident. Et là, le déclic, il est là à ce moment-là. Mais ce déclic, il a été travaillé quand même auparavant. C'est pas ça tombe pas du ciel un matin quand on se réveille, on se dit ah, « bah, tiens, c'est le nom que je veux ». Non, c'est parce que vraiment, il a été pensé dans tous les détails par rapport à l'histoire de l'entrepreneur et à l'histoire de la clientèle aussi, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Se dire c'est le bon moment, c'est un petit peu erroné en fait, parce que le bon moment, il arrive quand on a bien réfléchi tous ces moments-là en fait. C'est ça en fait. La clé du succès d'un bon nom, du bon choix pour le nom, c'est quand tous les pans de chaque histoire ont été pensés.
C'est ça. Donc, c'est un mélange de réflexion et d'infusion, c'est-à-dire comme sur un sachet de thé, il faut laisser le temps au temps et aussi s'accorder jusqu'à avoir une sorte d'évidence finalement de se dire bah oui, ce nom-là, il vient synthétiser, il vient incarner l'ensemble des aspects que j'ai identifiés comme étant importants, c'est la capsule finalement qui regroupe les ingrédients que je trouve essentiels et sur lesquels j'ai envie de communiquer.
C'est vrai que ça, vu comme ça, ça paraît moins romantique. Hein. Mais si on prend une histoire d'amour, en fait, quand on prend dans un coup de cœur amoureux, sentimental, si on prend un coup de cœur et qu'on a un coup de cœur, si on est tout seul dans ce coup de cœur, ça donne rien. Ça ne tiendra pas la route. Mais si dans ce coup de cœur, en plus, la personne en face a aussi un coup de cœur, donc là, c'est vraiment un déclic et le choix, il peut se faire plus facilement. Mais le choix tout seul, avec un coup de cœur tout seul de notre côté, avec rien, pas la réalité en face, ça ne marche pas.
Et alors justement, parce que toi, tu accompagnes beaucoup autour du choix, quel est le rapport que toi, tu entretiens avec le choix?
Alors ça, c'est marrant ce que tu me dis, parce que moi, j'ai mon conjoint qui réagit pas du tout de la même manière que moi. Il me dit toujours, mais quand tu as quelque chose d'important à faire, tu réfléchis tout le temps. Il dit, moi, quand j'ai envie de quelque chose, j'y vais. Je dis, mais non, parce que je peux avoir envie. Moi, des choix dans la vie, on en a plein à faire. Donc, si je fonce toujours tête baissée parce que j'ai envie de quelque chose, je relève jamais la tête et je peux me tromper. Mais parce que c'est mon mode de fonctionnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mon mode de fonctionnement, c'est toujours la créativité et la rigueur, en fait. Je ne peux pas me passer de l'un et de l'autre. Et mes choix dans la vie, c'est vrai qu'en général, je mets je mets du temps à réfléchir sur certaines choses parce que je ne veux jamais suivre mon instinct, en fait. Il y a des choses qui me plaisent, j'ai envie d'y aller, mais je me dis toujours, réfléchissons quand même. N'allons pas tête baissée, foncer dans cette aventure si je ne tiens pas compte de tous les éléments, en fait. Donc, mes choix, je les fais. C'est vrai que je te le dis aujourd'hui parce que j'ai réfléchi comment je fonctionnais. Hein. Je pense que quand j'étais plus jeune, je ne savais pas comment je fonctionnais forcément parce que j'étais très sensible. Enfin, je suis toujours très sensible. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai toujours cette sensibilité, mais j'ai toujours un temps d'arrêt en me disant, bon, je suis attirée par ça, j'ai envie d'aller vers ça. Mais étudions, observons ce qui se passe autour.
Ouais, tu cherches à confirmer ton premier élan, en fait. Tu as envie d'aller t'assurer que c'est pas juste sur un coup de tête, comme tu disais, mais voilà, qu'il y a en profondeur quelque chose de juste et que ça va confirmer que tu as effectivement une envie de passer à l'action en direction de ce chemin-là.
Et en plus, le choix, il est justifié parce qu'il est, pour moi, en fait, je suis en recherche d'harmonie. Donc, si je vais vers un choix, que je suis juste un coup de cœur, parce que c'est pas un coup de tête, parce que finalement, on réfléchit avec la tête. Mais si on va sur un coup de cœur sans réfléchir, ça veut dire que j'ai le risque aussi d'aller vers quelque chose qui ne sera pas aligné, qui ne sera pas harmonieux, et je m'en voudrais de ne pas m'être écoutée un petit peu plus au fond de ma tête. En fait, c'est ça.
Et comment est-ce que cette approche-là t'aide justement au quotidien dans ton aventure entrepreneuriale ?
Alors, dans l'entrepreneuriat, elle m'aide beaucoup parce que, par exemple, quand on va dans les réseaux, parce que quand on débute dans les réseaux, tout au début de l'entrepreneuriat, ben on a envie de découvrir, on a envie d'aller partout, on a envie de faire des rencontres. Et il y a un moment, il faut se canaliser parce que ben, le temps, il est réduit. Hein. On n'a pas d'horaire, d'amplitude horaire bien fixe, mais il faut quand même qu'on arrive à canaliser ses horaires et donc forcément ses réseaux et ses rencontres. Et il y a un moment où, par exemple, dans les rencontres, j'étais obligée de me poser en me disant, bon, ben, je ne peux pas aller partout et je ne peux pas rencontrer tout le monde. C'est comme dans sa clientèle, on ne peut pas rencontrer tout le monde. Il faut faire des choix, justement, y compris dans sa clientèle. Et c'est important, en fait, de faire ces choix-là. Ce n'est pas se restreindre une vision des choses, pas du tout. C'est simplement aller toujours au plus près de sa personnalité, au plus près de ce qui nous fait, en fait, vibrer quelque part. C'est-à-dire qu'on perd moins de temps, c'est surtout ça. Donc, ces choix-là, je les ai opérés, par exemple, par rapport au réseau professionnel. Je les ai opérés, alors pour la clientèle, je l'ai fait dès le départ. Je me suis toujours dit, tout le monde ne sera pas d'accord, hein, je vais un petit peu être toujours dans la provocation, mais là, je suis mon choix, du coup, me dire, bah, finalement, je vais vers la clientèle qui me plaît, avec qui je suis à l'aise, et je ne vais pas faire d'effort. Par exemple, on a tous en tête les différentes personnalités de clients. Voilà. Bon, moi, sans réfléchir à tout ça, je sais qu'il y a des personnalités de clients. Je n'ai pas envie de négocier, je n'ai pas envie d'argumenter. Parce que je sais qu'au bout d'un certain temps, même si on utilise toutes les méthodes inimaginables en commercial, ça ne me correspond pas. Donc, je n'ai pas à me forcer. Donc là, je m'écoute vraiment me disant, je fais mon choix de ne pas aller plus loin et je ne négocierai pas. Là, donc, dans l'entrepreneuriat, c'est très important de fixer ses choix. Donc, dans les réseaux, dans son rapport à la clientèle. Après, dans l'évolution de son entrepreneuriat, c'est important d'écouter ses choix et de poser ses choix. Alors, quand je dis poser ses choix, c'est là, je suis très concrète, c'est-à-dire que j'écris sur une feuille de papier, noir sur blanc, sur une matrice à deux colonnes, pourquoi je serais moins à l'aise dans ce choix-là et pourquoi je serais à l'aise dans ce choix-là. J'écris concrètement, j'ai un carnet de bord de mes choix, en fait. Et je les regarde au fur et à mesure, à 6 mois ou à 3 mois, à 2 mois, si mes choix ont évolué, si j'ai maturé dans ce choix, pour pouvoir prendre une décision, parce qu'en fait, quand on fait un choix, c'est pour pouvoir prendre une décision. Et dans l'évolution de l'entrepreneuriat, effectivement, les choix sont importants et je fonctionne aussi comme ça. Et ouais, effectivement, j'ai envie de certaines choses. Tout au début de l'entrepreneuriat, j'avais des aspirations, des visions, des ambitions. Je les ai toujours. Hein. Je les ai toujours écrits sur un coin de papier pour ne pas les oublier. Mais c'est qu'au fur et à mesure du temps, quand on avance, eh bien, ça permet justement de se motiver, de se challenger et de se dire par rapport à ces challenges qu'on s'est fixés, à ses ambitions, à ses rêves, à ses aspirations, se dire est-ce qu'on va toujours dans le bon chemin ? Est-ce que je suis ce rêve que je veux toujours faire ? Peu importe les rêves, hein, ça peut être professionnel ou personnel, hein, mais est-ce que je vais toujours dans ces rêves ? Est-ce que je suis toujours alignée à ces rêves-là ? Et surtout de se dire de peser le pour et le contre. Donc voilà, mon rêve, c'est quelque chose qui va me permettre d'être plus créative, d'être plus à l'aise avec moi-même, d'aller vraiment là où je veux. Et puis, toujours ce côté un peu rationnel en se disant, bon, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est mesurable ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est vraiment aligné à la réalité, en fait ? L'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est en fait se dire que il faut faire des choix et ces choix, il faut les poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'un côté, de manière créative pour moi et pour les autres? Parce que c'est jamais que pour ça dans l'entrepreneuriat. Son parcours, il est fait pour pouvoir aider les autres. On ne fait pas un parcours simplement pour gagner de l'argent et puis pour avoir un métier. C'est pas vrai. L'entrepreneuriat, on l'a choisi à un moment de sa vie parce qu'on a envie d'être utile pour soi, mais utile pour les autres aussi. Parce que utile que pour soi tout seul, ça ne sert à rien. On fonce dans un mur. Donc, c'est ça. C'est se dire, j'ai envie d'avancer. Est-ce que c'est utile pour les autres? Mais est-ce qu'aussi, là-dedans, je ne m'oublie pas? Est-ce que je remplis aussi mes rêves à moi dedans? D'accord? C'est toujours cet équilibre entre être utile pour les autres, être utile pour soi, aller vers mes rêves et pouvoir être toujours utile aux autres. Oui. Et donc, ça, ces choix-là, je les pose constamment, pas juste de temps en temps. Parce qu'effectivement, ça évite la surcharge mentale, ça évite de travailler entre guillemets 24 heures sur 24, ça permet de se poser dans ses choix en se disant « je prends des congés », alors que la première année, on ne fait pas toujours. « Je prends des congés » ou alors « quand j'ai des congés, c'est avec nos enfants, donc ce n'est pas forcément des congés parce qu'il faut s'en occuper. » Donc voilà, c'est ça, les choix, c'est au quotidien, ce n'est pas juste par rapport à un chiffre d'affaires ou par rapport à des ambitions, c'est au quotidien qu'on a fait ces choix, même dans l'entrepreneuriat. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est pour moi très important dans ce que tu décris, et je partage ce rapport au choix, c'est finalement un mouvement de balancier permanent, c'est-à-dire entre soi et les autres, entre son pourquoi, c'est-à-dire la réflexion, sa vision, et le passage à l'action. Et puis, sur ce mouvement d'aller-retour aussi, sur « c'était mon idée, je mets ça comme action en place, et je viens m'assurer régulièrement que en ayant confronté mon idée à la réalité, c'est bien toujours ce choix qui est valable pour moi et éventuellement, comment est-ce que je vais pouvoir l'ajuster. Donc, ce que je partage vraiment avec toi, c'est ce mouvement permanent et presque multidimensionnel d'aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'idée et la réalité, entre la réflexion et l'action. Et comment est-ce que tout ça, tous ces choix-là, pour qu'ils soient justes, puisque je crois que derrière, c'est l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on obtient une forme d'harmonie, de justesse ou en tout cas de juste déséquilibre parce que la vie c'est du déséquilibre permanent, c'est ce mouvement de balancier d'aller-retour entre ce qu'on imagine, ce qu'on fait et puis ce retour à soi pour s'assurer qu'on est toujours dans quelque chose de juste, effectivement. Donc, merci pour ce partage. Et toi justement dans la suite de ton parcours, est-ce que là tu es dans une phase où il y a un choix, petit ou grand, qui est en train d'infuser, justement, de se dessiner en termes de contours et sur lequel tu es en train d'avancer.
Alors, je dirais que oui, au niveau de l'entrepreneuriat, je suis à un moment du choix qui est un peu particulier où quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais sur un choix de pouvoir créer des noms plutôt pour des indépendants, essentiellement pour des indépendants. Parce que effectivement, les indépendants et les micro-entrepreneurs n'ont pas forcément cette idée de se dire « j'ai un nom de marque pour avoir une ambition ». Souvent, c'est « je crée une entreprise parce que je… » En décousu, hein, comme ça, hein, au départ, c'est « je crée une entreprise parce que j'ai envie d'avoir une activité qui me ressemble et qui me plaise ». Et en fait, le nom de marque, c'était au départ, moi, l'idée, c'était de se dire « ben non, restez pas que sur ce pan de votre vie ». Votre métier, il ne va pas s'arrêter à la fin de l'année. Votre activité, elle ne va pas s'arrêter à la fin de l'année. Il faut qu'elle continue. Donc, on fait un nom de marque pour que cette activité, elle soit pérenne et puis que ce soit durable. Alors, aujourd'hui, mon choix, il continue toujours de pouvoir continuer à travailler avec ces personnes-là parce qu'il y a des projets qui sont super et que c'est dommage de ne pas pouvoir justement lancer des projets à petite mesure et qui deviennent des grandes mesures. Donc, c'est super de voir tout ce cheminement. Et aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir mon choix de positionner le nom de marque sur des entreprises un peu plus de grosse taille, mais pas non plus de grosse taille, mais de moyenne taille et qui peuvent évoluer sur une nouvelle vision des choses, c'est-à-dire qu'ils ont une clientèle pendant des années et puis essayer de un petit peu colorer, moderniser cette identité. Donc, ce choix, il n'est pas facile parce que ça sous-entend que pour moi, je change de statut aussi d'entrepreneuriat. Donc, derrière, c'est des enjeux financiers, puis des enjeux aussi professionnels parce que ça veut dire qu'il faut outiller tout ça. Donc, c'est des choix pas faciles. Donc, c'est un choix que je vais faire certainement au début d'année prochaine, savoir quand… le pour et le contre de cette bascule, de ce balancier, savoir en quoi c'est utile pour les autres, en quoi ça va être utile pour moi aussi, parce qu'il ne faut pas que, je sois débordée par les événements et par le travail qui sera à fournir. et que je sois toujours professionnelle et puis moi toujours sereine, parce que ça, c'est important. Parce que si on est professionnel et débordé, ben, on ne va pas donner grand-chose. Mais si on est professionnel et sereine, ça va aller beaucoup mieux. Donc, c'est ça, c'est ce choix-là, savoir où est-ce que je mets la frontière, où est-ce que je la positionne, est-ce que je suis sûre de moi, et voilà, positionner tout ça. Mon choix, ça va être à ce niveau-là pour la nouvelle année 2021.
Formidable. Écoute, merci beaucoup, Émilie, pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite de continuer à fabriquer beaucoup de noms justes et efficaces et qui vont donner des ailes à de nombreux entrepreneurs. Et je me réjouis de découvrir la suite de tes aventures entrepreneuriales.
Mais je te remercie beaucoup, Oriane, et merci beaucoup à tes auditeurs et auditrices d'avoir pu partager aussi, à écouter cet échange.
Un grand merci à Émilie pour son temps, sa confiance et ses partages. J'aime particulièrement sa pratique de tenir un carnet de bord de ses choix. Et vous, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré? Sortez vos agendas. Et surtout, surtout, faites-le. N'hésitez pas à me partager par mail, par mon site ou par les réseaux sociaux vos retours. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous et pour vous. Et je serai enchantée d'échanger avec vous. Pour en savoir plus sur l'actualité d'Émilie, direction son site lafabriquedunom.com. Si vous êtes à un moment de vie où vous sentez qu'il est temps pour vous d'arrêter les contorsions et qu'il est temps de faire les choses à votre manière et de vous construire une vie sur mesure qui vous ressemble davantage, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel ou en coaching de groupe en ligne à distance. Si vous êtes intéressé par l'un de mes accompagnements, contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger lors d'une séance initiale offerte afin d'identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble à votre service. Par ailleurs, sachez que j'animerai la retraite L'Intermède Vivifiant pour un tout petit groupe de personnes du côté d'Angers du 18 mars au 21 mars prochain. Il s'agit d'une retraite de 3 jours et demi pour interrompre la marche à plein régime du quotidien et pour revenir à l'essentiel et à plus de justesse et de nuances dans la vie. Toutes les informations relatives à L'Intermède Vivifiant sont disponibles sur mon site dans l'onglet Coaching particulier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriannesavourelucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte beaucoup même et elle peut porter de différentes manières. Le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur Apple Podcasts, d'y laisser votre avis 5 étoiles ou de vous abonner via la plateforme d'écoute que vous préférez comme Spotify, Google Podcasts, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez aussi faire connaître Avez-vous choisi à toutes ces personnes qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées ou pour me suggérer de nouveaux invités, pourquoi pas, vous pouvez me contacter via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?